Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine d'avril 2024, ici Alex Baillargeon, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de chez 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Au menu, bien sûr. Traité de la semaine. Mais aussi on a parlé un petit peu la semaine dernière quand même. Bon, les sondages continuent d'affluer. Les derniers en liste pour le fédéral. L'élection avait lieu au Canada. Présentement, évidemment, c'est les conservateurs qui dominent avec 15 points d'avance sur le Parti libéral. On n'est donc pas dans une élection qui s'annonce serrée, du moins pour l'instant. Il reste, si tout va bien, encore une bonne année et demie avant le déclenchement officiel des élections. Parce qu'on a eu droit, évidemment, depuis la semaine dernière, à l'effeuillage libéral. Donc, on fait la promotion du programme électoral avant de le présenter devant tout le monde. Donc, on essaie de mettre de l'avant certaines politiques qui passeraient très certainement sous silence, dû au fait que, généralement, ce que l'on retient d'un budget, qu'il soit fédéral ou provincial, c'est l'argent qui sera dépensé ou coupé. Et évidemment, la dette que connaîtra le pays ou la province. Tout dépendamment des montants qui sont révélés. Donc, on peut s'attendre, bien sûr, à ce qu'il y aura des dépenses justifié, justifiable pour les principaux intéressés, irresponsable, désagréable et qui n'a pas de gros bon sens selon l'opposition. Et comme j'en ai parlé dans les dernières semaines, qui s'invite et s'ingère dans les politiques provinciales, surtout du côté de Justin, parce qu'on tente de faire des gains, on tente de faire du pointage en promettant des choses que les gens voudraient normalement, mais qu'en bout de ligne, que le chèque vienne du Canada ou qu'il vienne de la province, c'est pas ça le plus important tant qu'on l'a. La preuve, les soins dentaires, pour l'avoir mentionné, si un traitement de canal à 1 200$ revient à seulement 200$ parce que Canada va rembourser, la question se posera pas de « Oui, mais c'est-tu Santé Québec, c'est-tu Santé Canada, c'est-tu Santé Manitoba qui va payer? » tant que les soins dentaires sont couverts, on s'en plaindra pas. Donc, à cause de ça, évidemment, on espère faire quelques gains, mais évidemment également, on n'est pas particulièrement content chez les premiers ministres. Donc, au sondage, si les élections avaient lieu, le Parti conservateur remporterait 39% des intentions de vote, ce qui le place bien évidemment majoritaire de 2025 à 2029, 24% pour le Parti libéral, 20% pour les NPD, 5% pour le Parti vert, et comme c'est à l'échelle canadienne, 9% pour le Bloc québécois. Donc, ça va, ça se maintient, ça reste dans la marge qu'on connaît depuis déjà plusieurs semaines parce que, justement, on fait plus ou moins attention d'un côté où on attaque extrêmement férocement de l'autre. Donc, on doit s'attendre à ce que la carte change du tout au tout. Seul le Québec, actuellement, toujours selon Québec 125, Canada 338, seul le Québec serait la seule province qui ne tomberait pas aux mains conservatrices. La Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-Labrador passent toutes du côté bleu foncé. Le Québec reste avec le Bloc québécois à 38. Yukon, Terre-Neuve-Labrador, Nunavut seraient au NPD, majoritairement au NPD. Et où ça fera le plus mal, c'est surtout l'Ontario, puisque l'Ontario sont actuellement à la dernière élection en 2021, sont actuellement à 78 députés libéraux. Et passerait à 22, alors que les conservateurs étaient à 37 et monteraient à 90. Donc, sans dire que la balance est du côté de l'Ontario, ils ont énormément de leur mot à dire, parce que sans surprise, Alberta, c'est 32 conservateurs et 2 NPD, mais on efface le seul libéral qui y était. Y avait-tu un libéral en Alberta? Non, je me trompe avec... Je me trompe avec la Saskatchewan, qui, eux, actuellement, ont 4 députés libéraux, 3 du NPD. Ce sera des luttes chaudes pour que le NPD conserve ses 3 sièges dans les prairies. Ah, c'est les prairies au complet, c'est vrai, ce tableau-là, il ne différencie pas... Il différencie pas les... C'est les prairies en général. S'il n'y a pas de... Il n'y a pas de circonscription. Mon erreur. Mais quand même, sur la carte, en tant que telle, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, évidemment, c'est... ça c'est que ça mélange Saskatchewan, Manitoba. Essentiellement, les conservateurs vont l'emporter. Le NPD au Manitoba pourrait survivre tant bien que mal, mais les libéraux du Manitoba, eux... et Saskatchewan, s'il y en avait un, sauf erreur, eux, ça va être beaucoup plus difficile. Ça, c'est pour les prairies, évidemment. Québec, la majorité reste quand même du côté du Bloc québécois, sans pour autant faire énormément de gains, au sens où c'est 38 et on était à 32. On est à 32 en ce moment, pourrait faire 38, donc c'est une petite amélioration. Les libéraux, c'est un moins 10 qui est réparti plus ou moins également entre le Bloc et les conservateurs. Où les conservateurs pourraient potentiellement faire des gains au Québec. Il faut se transporter du côté du Saguenay, notamment de Richemont-Arthabasca, qui pourrait retomber aux mains conservatrices, donc récupérer le château fort conservateur. Et la possibilité, l'autre possibilité, c'était dans le coin de Trois-Rivières, où c'était toujours un peu serré entre justement libéral, bloc et conservateur. La dernière fois, c'était les libéraux qui l'avaient emporté. Sherbrooke pourrait retomber aux mains bloquistes si tout va bien avec la campagne du bloc dans la région. Sherbrooke pourrait redevenir bloc québécois à la prochaine élection. Donc, ce sera évidemment une lutte à surveiller. Louis Hébert dans Québec, c'était pas ce que je cherchais, mais c'est celui-là qui pourrait être enclin à devenir conservateur. Donc, on se posait, là, je parlais de Trois-Rivières, mais finalement, ce sera la région de Québec aussi. Joël Lightbound qui serait en difficulté dans sa circonscription en étant à égalité en deuxième position avec le Bloc québécois et les conservateurs qui pourraient faire une petite percée dans Québec et récupérer un siège supplémentaire. On n'a pas juste la carte. Non, on ne l'a pas. Donc, rien n'est joué au Québec. C'est sûr qu'il y a certains comtés qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Beaucoup plus forts, plus forts. Mais rien n'est acquis non plus. Encore une fois, dans la région de Québec, Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, cette énorme circonscription. Pourrait causer la surprise au pourcentage. Bloc et conservateur se retrouvent nez à nez. 2015 ayant voté conservateur, 19 et 21 ayant voté Bloc québécois. Mais à 3% d'écart, rien n'est joué non plus. Donc, Québec pourrait être enseveli sous les conservateurs. Les députés libéraux en ce moment sont tous en difficulté. Je viens d'aller vérifier pour Jean-Yves Duclos, dans son cas, lui, c'est le Bloc qui pourrait faire un gain. Donc, pourquoi je dis aussi que le Bloc ne fait pas nécessairement de plus ou de moins? Il pourrait perdre Beauport, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, etc. Là, j'ai dit dans le désordre, mais l'énorme circonscription à Québec, ben, la rive nord. Mais Québec, la circonscription fédérale de Jean-Yves Duclos pourrait passer aux mains du Bloc québécois au détriment des libéraux et des conservateurs qui ne sont pas dans la course, du moins pour la circonscription de Québec. Tandis que Louis Hébert, ben, c'est le scénario complètement inverse, où c'est conservateurs et blocs qui peuvent se disputer confortablement la première place, tandis que les libéraux, ça va de moins en moins bien. Donc, et c'est partout. Longueuil pourrait tomber Bloc québécois. Intéressant. Laurier-Sainte-Marie pourrait être une deuxième porte pour le NPD. Tandis que Rosemont reste confortablement pour le parti de Jagmeet, mais il pourrait faire un deuxième gain dans la région de Montréal. Ça serait bon pour eux qu'on se souvienne d'eux au Québec, mais depuis la vague orange, évidemment, tout s'est effondré du côté du NPD au Québec, mais d'avoir un deuxième siège, ça c'est particulier et c'est notamment attribuable également à cette grogne générale qu'il y a pour le Parti libéral, puisque c'est au coude à coude dans Laurier-Sainte-Marie, 35 à 33. Donc voilà, la carte sera revampée, ça c'est sûr et certain. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses, ce sont des distributions, ce sont des pourcentages. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Évidemment, c'est rendu le soir de l'élection qu'on sait les résultats exacts, qu'on sait ce que les gens voudront réellement ou contre qui ils auront voté massivement. Avec la deuxième position, c'est aussi un gamble quand même intéressant dans plusieurs cas. Ben intéressant. Un peu dommage, mais peut causer certaines surprises à l'occasion. Donc, à voir, bien évidemment, d'ici, dans le meilleur des mondes, l'année prochaine. On s'arrête quelques instants. Au retour, la Suisse, un deuxième service ici, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3. Perside avec Kaleidoscope qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIS. On l'a entendu énormément, surtout dans les derniers mois que l'usage du français dans l'espace public est problématique, que on parle de moins en moins français à Montréal, qu'il faut absolument adopter des politiques favorisant l'utilisation du français au Québec, parce que sinon, on ne parlera plus français dans les 5 prochaines minutes, etc., etc., etc. Donc, se draper de bonnes intentions avec un problème qui est peut-être pas si intense que ça. Au sens où, cette semaine, on apprenait que l'Office québécois de la langue française sortait un rapport pour justement parler de l'état de la langue parlée au Québec. Et... N'en déplaise à quelques caquistes sur lesquels ils essayent de tant bien que mal survivre, l'état du français n'est pas si mal au Québec, au sens où il y a même des chiffres positifs par rapport à 2016. On a demandé en 2022 l'utilisation du français dans l'espace public. Selon la géographie, la langue parlée à la maison. Et le français est en hausse. Et ce, partout au Québec. Les gens parlent français. Les Québécois qui disent parler français, 78 % en 2016, 79 % en 2022. Les Montréalais, plus 2 % 58 à 60. Les anglophones, qui disent parler français, de 20 à 25. On est passé de 1 anglophone sur 5 à 1 anglophone sur 4. C'est excellent. Les allophones de 54 à 57 et qui utilisent le français ou l'anglais de 40 à 48 %. Donc malheureusement, pour les arguments que la culture québécoise au grand complet, parce que le français n'est plus parlé, n'est plus un argument. Évidemment, on a l'impression que le français s'en va chez le diable, parce qu'il y a de plus en plus d'utilisation de mots anglophones, parce qu'il y a des tournures de phrases qui sont un peu plus anglophones. Mais pour avoir vu quelques vidéos là-dessus également cette semaine, est-ce que la culture d'un peuple au grand complet se résume à uniquement la langue qu'elle parle? Bien sûr que non. C'est un facteur. Mais on ne peut pas dire que parce qu'on ne parlera plus français, ça veut dire que la culture au grand complet va s'effacer? Évidemment que non. Pour ce qui est du français, c'est normal que les plus jeunes qui consomment davantage de produits anglophones aient des tournures de phrases un peu différentes du français écrit normal. Mais c'est pas évidemment positif qu'ils s'intéressent davantage au contenu anglophone parce que le contenu francophone ne les rejoint pas. À ça, évidemment, on repense au sondage réalisé auprès d'étudiants français à Jonquière s'ils connaissaient Véronique Cloutier. Évidemment que non, ils ne connaissent pas Véronique Cloutier. Soit parce qu'ils sont nouveaux arrivants, soit parce que justement, ils n'ont pas nécessairement accès à la télévision québécoise. Et de toute façon, est-ce qu'on peut leur en vouloir de ne pas regarder assidûment Zénith ou d'écouter à tous les soirs son émission de radio quand c'est pas nécessairement le public qui est ciblé? Quand même que Zénith à Radio-Canada se veut être une émission rassembleuse et tout ça, si les gens n'ont pas nécessairement envie d'écouter une heure d'émission de karaoké, ben grand bien leur fasse. C'est normal qu'ils ne voudront pas nécessairement le regarder. Mais après ça, tu ne peux pas en vouloir à un nouvel arrivant de ne pas connaître la fureur d'il y a maintenant 20 ans. Fait que non, la culture québécoise ne se résume pas à uniquement la langue parlée. C'est un facteur, mais ce n'est pas que le français qui fait en sorte qu'on a une culture québécoise. À preuve, dans la culture au sens large, dans les arts, il y a du cinéma. Il y a des œuvres artistiques, de la sculpture, de la peinture. Est-ce qu'une peinture a une langue? Parce que le peintre parle une langue en particulier. Est-ce que des artisans du cinéma québécois qui travaillent sur Dune 2 fait en sorte, bien évidemment, après ça, la question se débat si est-ce que Dune est un film québécois ou un film américain, de par son réalisateur et de par justement une équipe particulièrement québécoise. En même temps, ça serait quand même pas pire d'avoir au cinéma québécois en nomination Timothée Chalamet et Luc Picard, par exemple, dans la même catégorie. Ça pourrait être intéressant, mais on verra bien au prochain Gala Québec Cinéma. Mais tout ça pour dire que ça dépasse les frontières. T'sais, combien y a-t-il de Québécois dans le monde qui font des choses, qui réalisent des choses et que ça fait partie de ce bagage québécois-là? Mais est-ce que c'est uniquement parce qu'ils parlent français? Pas nécessairement. C'est sûr que c'est important. C'est sûr que dans le milieu dans lequel on est, c'est important. Mais ce n'est pas que ça. Et à preuve, ça augmente. C'est en augmentation. Les gens en sont conscients de ce recul du français-là et vont faire l'effort de tout de même parler la langue. Une autre question de ce rapport de l'Office québécois de la langue française, l'utilisation de l'anglais dans l'espace public. L'anglais dans l'espace public au travail, par exemple, est en recul. Les Montréalais disent parler un peu moins l'anglais au travail, de 24 à 17 % Les anglophones uniquement disent parler moins français, de 57 à 43. Donc, quand on dit qu'il y a un effort pour les anglophones de parler un peu plus, de parler davantage français, ça existe. Au travail, de 57 à 43, individuellement, eux, de 20 à 25. Et ça, c'est positif. Ça devrait être mis de l'avant. Mais non, malheureusement, on a décidé d'y aller dans la peur, dans les craintes et de dire que le français n'existera plus, ça sera terminé, chose du passé, ce sera dans nos souvenirs uniquement, quand dans les faits, ce petit bloc-là existe encore. Évidemment, il ne faut pas faire exprès pour faire en sorte qu'il disparaisse, que la langue disparaisse. Le petit bloc, il disparaisse, mais que la langue, elle, disparaisse. L'utilisation du français est stable depuis 15 ans, donc il n'y a pas de crainte à court terme. Et l'utilisation de l'anglais a même légèrement baissé. Les deux grandes lignes à retenir de ce rapport-là. Donc, il faudra trouver un autre argument pour dire que la langue est en perdition. Mais encore une fois, c'est pas une tournure de phrase ici et là qui va faire en sorte que le français va complètement disparaître. L'utilisation de mots anglophones est normale dans une langue qui évolue. Parce que le pire qui pourrait arriver à la langue, c'est qu'elle s'arrête sur elle-même, qu'elle tourne sur elle-même, qu'elle n'évolue plus. Et ça va faire en sorte que la langue n'existera plus. Parce que les gens vont se dire à ce moment-là, « Ouais, mais pourquoi je parlerais cette vieille langue-là qui est tellement figée, qui n'est pas fluide, alors qu'il y en a tellement d'autres? » Oui, c'est à faire attention, évidemment. Mais on n'est pas sur le bord de la catastrophe et de la crevasse comme l'aimerait si bien pour pouvoir agiter l'épouvantail de « Les Anglais sont tellement méchants et on va mourir à petit feu. Notre langue va mourir à petit feu. » C'est stable depuis 15 ans et même que l'anglais a un peu reculé. C'est des grandes lignes et c'est pas n'importe qui. C'est l'Office québécois de la langue française. S'il y en a qui sont chatouilleux, c'est bien l'Office québécois de la langue française et eux-mêmes le disent. C'est stable et c'est même bien. Ça va bien. Donc, soyons positifs avec tout ça. On s'en va quelques instants au retour. La suite du deuxième service cette semaine, vous écoutez le réchaud du deuxième service au 88.3 à Sherbrooke et à 694.3 à Québec. De retour au deuxième service, Lou-Adriane Cassidy, qu'on vient d'entendre en musique avec les amours immatures. Petite précision pour le document de l'OQLF. Bon, quand on parle de francophone, anglophone, allophone, ce sont les gens qui disent parler ces langues-là à la maison. Donc, c'est comme ça qu'on a ces groupes-là en tant que tels. Donc, les allophones qui parlent plus souvent une autre langue que le français à la maison, ou l'anglais, anglophone, francophone, évidemment, les langues respectives, et personnes parlant le plus souvent français et l'anglais à la maison, donc qui peuvent parler les deux de par un parent anglophone, un parent francophone, ce n'est pas complètement impossible. Et la langue utilisée dans l'espace public, c'est la même chose, c'est lorsque l'on va dans un magasin, lorsqu'on va au travail, lorsque l'on va à l'hôpital, par exemple, bien, on s'adresse aux autres dans la langue française et les anglophones font l'effort de parler français au Québec. Donc voilà pour la petite précision. Truc qui était drôle. On s'entend, ça dépend pour qui, mais à chaque année, il y a toujours une dernière bordée de neige et cette fois-ci, c'est le sud de la province qui a récolté, puisque Québec, vous en êtes sorti avec la pluie et des grands vents. Mais de ce bord-ci du fleuve Saint-Laurent, ça a été la grosse tempête de neige depuis deux jours. 25 cm ont été attendus dans la journée de mercredi à jeudi, à début de vendredi. Donc, la dernière tempête de neige a fait son œuvre. Évidemment, il y a eu des pannes de courant un peu partout en Montérégie, du côté du centre du Québec également, donc dépendamment des secteurs. Côté de Montréal également, il y en avait. On est dans les phénomènes météo, évidemment. Ne serait-ce que parce qu'on parle également de l'éclipse solaire depuis tellement longtemps et trop longtemps que finalement, lundi, on en sera débarrassé parce que là, ça va être fait. On va finalement avoir l'éclipse solaire. Évidemment, encore une fois, pour ceux qui restent dans le sud de la province, ils seront plus avantagés ou verront davantage l'éclipse solaire du côté. Ben, en fait, elle sera plus complète au sud de la province. Donc, tout le monde pourra l'observer, mais dans les autres région, on parlera plutôt d'éclipse partielle, puisqu'il y aura un petit coin de soleil qui ne sera pas complètement recouvert lorsque la Lune passera devant. Qu'à cela ne tienne, ceux qui ne veulent pas risqué ou qui n'aurait pas mis la main sur l'une des fameuses paires de lunettes solaires. Il y aura bon nombre d'émissions spéciales. Bon nombre d'émissions spéciales qui aura lieu également sur les chaînes d'information continue, même que on promet la diffusion de l'éclipse solaire sur certaines antennes qui pourra être... à côté de manière télévisuelle. Donc, ça s'en vient. Là. On va avoir fini d'en parler bientôt. Et de toute façon, ben, pour ce qui est de la neige dans ce cas-ci, il annonce des 10 et des 11 degrés la semaine prochaine. Donc, tout ça sera du passé pour les grosses tempêtes. Et très rapidement, c'est le cas de le dire, parce qu'on passera à d'autres choses. Mais bon, ces variations-là, de température, évidemment, ça vient à se poser des questions. C'est ce que ce sera ça dorénavant, la température à laquelle on aura droit. Évidemment, la question se pose. Est-ce que ça fait en sorte que c'est complètement nouveau, qu'on va devoir s'habituer à ça? Évidemment que non. Des bordées de neige tardives comme ça, c'est pas la première fois. T'sais, on répertoriait d'anciennes grosses tempêtes de neige. Il y en a eu dans les 50 dernières années. Fait que t'sais, c'est pas complètement impossible, mais c'est sûr qu'au sortir d'un hiver avec pas beaucoup de neige, un mois de février particulièrement capricieux, une journée 3 degrés, l'autre journée moins 20. Fait que, tu sais, ces variations-là, ces changements de température-là, évidemment, eux, elles, sont à prévoir. Ces variations-là vont se répéter davantage. Ce n'est pas uniquement... ça ne sera pas uniquement ça cette année. Ça ne sera pas non plus la dernière fois qu'on verra de la neige, non? On n'est pas non plus dans la catastrophe de « il n'y aura plus de neige d'ici 2 ans ». On est quand même dans un climat qui est propice à ça. Mais est-ce que tout peut être décalé? Ça, c'est sûr et certain. On était décalé. On était toujours un mois de saison en retard l'année dernière. À toujours dire « ah, il me semble que c'est une température du mois précédent ». Oui, on est probablement un peu décalé. Mais en tant que tel, on n'est pas proche de la fin non plus. Bon, après ça, ça dépend à qui on s'adresse. Mais tout ça pour dire que, blague à part, évidemment qu'il faut faire attention. Évidemment qu'on n'a pas de ressources infinies. Et parce que, justement, ces ressources-là ne sont pas infinies, ça veut quand même dire qu'il faut faire attention avec ce qu'on a. Donc, évidemment... Ce n'est pas uniquement le fait de partir son lave-vaisselle passé 11 heures le soir qui va faire la majeure différence. C'est sûr que ça peut aider de répartir l'utilisation de son électricité pour tomber dans le domaine électrique. Mais comme plusieurs, quand on passe devant dans le centre-ville de peu importe quelle ville et qu'on a des bâtiments, des tours de... plusieurs étages où des lumières sont allumées sur chacune d'entre elles lorsque techniquement personne n'est au bureau, ou en tout cas, il y a peu de gens qui seraient au bureau encore à cette heure-là. Des édifices illuminés dans les grandes villes parce que c'est plus joli lorsque les lumières sont allumées. C'est de l'utilisation d'électricité aussi. Fait que, tu sais... Autant qu'on dit aux particuliers de faire attention, d'éteindre la lumière dans la chambre si on ne s'y trouve pas, etc., etc., autant qu'il faudrait que ces mêmes consignes-là soient faites pour le commercial, pour l'industriel. Est-ce que ça vaut tant que ça la peine d'avoir une façade de bâtiment illuminée 24 sur 24? Parce que ça fait plus beau le soir quand techniquement personne ne se trouve à l'intérieur du bâtiment. La question se pose. Est-ce que... Et bien évidemment, pour les lampadaires de rue, on tend à changer les lampadaires justement pour que ça soit plutôt à la lumière du jour ou aux panneaux solaires. Donc, on change la manière d'alimentation d'électricité de ces panneaux-là de rue. Et de toute façon, panneaux de rue, c'est normal, c'est logique, ça prend une certaine luminosité. Mais est-ce que... d'illuminer, une, comme je le dis, un bâtiment de 15 étages. Chaque étage a ses lumières d'allumer et tout ça pour une nuit complète alors qu'il n'y a personne. On peut poser la question. Fait que c'est pour ça que, oui, on demande aux particuliers de faire l'effort, mais est-ce que le commercial a également cette demande-là qui est faite? Quand on essaye de dire « Oui, mais là, il faut arrêter de gaspiller l'énergie, chers concitoyens, la sécheuse passée 10 heures et le lave-vaisselle passé minuit, merci. » C'est un effort. Évidemment, si tout le monde le fait, c'est déjà pas si pire. On va mieux répartir l'énergie. Mais quand on y va avec des gros projets de construction qui va faire en sorte qu'on va devoir se limiter encore plus parce que certaines sources, elles, demandent plus d'énergie, question d'équité vient à se poser. Enfin bref, on verra ce que ça donnera. Est-ce qu'il faut absolument construire à grands frais d'autres barrages? Pas nécessairement. Il y a moyen de faire avec ce qu'on a. Évidemment, ça va prendre des sources d'alimentation différentes rapidement. Mais est-ce que ça passe nécessairement par des grosses usines et ou par de gros barrages et ou par de l'utilisation qu'on ne faisait plus de d'autres énergies? Un autre débat qui est lancé. On s'arrête quelques instants au retour de la conclusion de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3. La formation haute avec Saturne en Capricorne qu'on vient d'entendre sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIS. Rapidement, en terminant cette semaine, bon, on se souviendra l'enthousiasme beaucoup trop débordant de Bernard Drinville à confirmer que la CDPQ Infra allait lui donner son troisième lien pour qu'enfin il puisse assécher ses larmes de crocodile. Eh bien, surprise cette semaine, Jonathan Julien, aussi intriguant qu'il puisse être, le ministre de la région de Québec, est allé d'une proposition complètement inverse que celle de Bernard Drinville en disant, et ce de manière beaucoup plus prudente, que lui allait attendre les résultats de ce que la CDPQ allait remettre d'ici deux mois. Il n'est pas acquis que la Caisse de dépôt et de placement de Québec présentera un projet de troisième lien autoroutier au terme de son analyse, comme le souhaite ardemment Bernard. Le ministre de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, en marge d'une annonce portant sur l'aménagement des berges de l'Est de Québec, l'a affirmé. Bon, évidemment, après ça, il s'est défendu en disant « Je n'ai pas dit qu'il n'y allait pas avoir de troisième lien. J'ai dit que non. » Nous ne savions pas ce que la CDP... En tout cas, quelque chose dans ce genre-là, mais tu sais, il a essayé de patiner, évidemment, parce qu'il venait contredire son bon ami Bernard. Voilà. Le nom de ma phrase s'adressait à la journaliste et ne visait pas les propos de Bernard Drinville. Donc, je n'ai pas dit « Non, Bernard est dans le trouble » ou « Non, Bernard dit n'importe quoi ». Non, madame la journaliste, je ne sais pas si... le troisième lien va se faire. Enfin, bref. on essaie tant bien que mal de s'arranger pour avoir l'air d'un peu moins perdre la face, de un. Évidemment, on essaie de pas trop faire mal paraître Bernard, déjà qui a un peu de misère. Quoique... faut leur donner le poisson d'avril de Bernard Drinville qui s'apprête à chanter et François Legault qui joue de la guitare, mais que la vidéo mystérieusement gèle avant que le tour de chant commence. C'était très sympathique, c'était très drôle, oui. On peut leur donner. C'est un bon poisson d'avril. Ça fait sourire. T'sais, on est bons joueurs. T'sais, on essaie de récupérer ça, mais évidemment, la gaffe de Drinville qui chante au grand complet des Cowboys fringants, c'est fait et malheureusement, ça restera pour pour l'avenir et dans les cours de communication politique de dire « faites jamais ça ». Et ceux qui tu dis pour devenir des attachés politiques, on va leur dire « faites jamais faire ça à votre ministre. Vous allez avoir l'air de n'importe quoi. L'automne dernier, au lendemain de sa défaite électorale dans Jean Talon, la Coalition Avenir Québec avait envisagé de raviver le projet du troisième lien qu'elle avait elle-même enterré quelques semaines auparavant. Depuis ce temps-là, rien ne va à la CAQ. Récemment, on avait Geneviève Guilbeault qui présentait un sondage Internet qui n'avait aucune limite et qui permettait aux gens de répondre le nombre de fois qu'ils le désiraient et qu'ils le souhaitaient pour dire s'ils voulaient un troisième lien ou non. Mais ça, c'est de manière citoyenne et la CDPQ n'avait pas nécessairement besoin de s'y référer. Donc, on remplissait malgré tout la tâche de demander aux Québécois leur opinion. Parce que, évidemment, l'opinion prime sur les expertises et sur le consensus général qui dit que ça n'a pas de bon sens. Parce que, évidemment, l'opinion de tout le monde, c'est ce qui est le plus important. Ce qui a fait en sorte également qu'Éric Duhem a commandé lui-même un sondage pour demander si les gens de Québec, dans un sondage, voulaient du troisième lien. Et comme par hasard, les principaux intéressés, surtout les gens de Lévis, ont dit « Mais bien sûr que nous voulons un troisième lien. » Donc, Éric Duhem, sans scrupule, se présente et dit « Les Québécois veulent un troisième lien. » Dans un sondage d'à peu près 1000 personnes de la région de Québec, surprise, des résultats favorables. Fait que voilà. Comme quoi, c'est ça, demander le gros bon sens et de demander l'opinion de tout le monde, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la chose à faire à tout prix. Parce qu'on demande à des environnementalistes, on demande à des gens qui font ça dans la vie, faire des ponts, faire des études pour voir la faisabilité de projets. Et eux disent que c'est ben trop compliqué, ça se peut pas. Ou on propose le plus gros tunnel sous terre, sous mer au monde, dans la première mouture, du troisième lien à deux étages, trois voies dans les deux sens. Fait que c'est beau les projets sur papier. Après ça, de passer l'étape de faisabilité, ça n'est déjà une autre. Oui, l'opinion publique peut vouloir quelque chose, mais si justement la faisabilité ne se peut pas, c'est comme l'espèce de veto qui fait en sorte que ça devient beaucoup plus légitime de dire « Non, nous allons passer à autre chose, nous allons repenser à ce qu'on pourrait faire. » Plutôt que de faire comme « Ah, mais là, les gens en veulent peut-être ou les gens en veulent des fois. » Enfin, bref. On verra ce que la CDPQ dira. Si finalement, elle sera une défaite pour dire qu'il n'y a pas de troisième lien faisable et ou si elle opte la caisse de dépôt pour un projet de tramway entre les deux rives. Ça s'était déjà parlé, de faire du transport en commun qui se peut entre les deux rives. Ça pourrait être un excellent projet que soumettrait le CDPQ Infra. Mais après ça, est-ce que électoralement parlant, après ça, la CAQ qui a tout mis ses œufs dans le panier, la CDPQ va faire comme « Oui, vous avez raison, nous vous écoutons » ou ben, la CDPQ a fait des efforts, puis on va penser à d'autres choses. Les deux sont possibles. On verra bien ce que ça donnera, mais faut pas faire comme Bernard et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, faut pas vendre la peau du troisième lien avant de réaliser si ça se peut réellement. Disons ça comme ça. Ça a été d'essayer de l'adapter. Ben, en tout cas, ça s'est fait sur le fly. C'est là-dessus que ça se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service. Ici, même sur les ondes de CFA 88.3 et de CHU 94.3. À la semaine prochaine. Salut.